la chute des sociétés de propriétaires, le dépassement de l'État-nation. Récapitulons. Les sociétés propriétaristes européennes du XIXe siècle sont nées d'une promesse d'émancipation individuelle et d'harmonie sociale liée à l'accès de tous à la propriété et à la protection de l'État, en lieu et place des inégalités statutaires des sociétés trifonctionnelles anciennes. Pour une large part, elles ont conquis le monde grâce à la puissance militaire, technologique et financière que la compétition intra-européenne avait contribué à conférer à leurs États. La chute des sociétés de propriétaires découle d'un double échec. D'une part, elles ont atteint en 1880-1914 des niveaux d'inégalité et de concentration des richesses encore plus extrêmes que les sociétés d'ancien régime qu'elles prétendaient dépasser. D'autre part, les États-nations européens ont fini par s'autodétruire et par être remplacés par d'autres puissances étatiques de dimension continentale, organisées autour de nouveaux projets politiques et idéologiques. Dans « Les origines du totalitarisme », ouvrage rédigé entre 1945 et 1949 aux États-Unis, où elle était elle aussi réfugiée et publié en 1951, Hannah Arendt tente de comprendre les raisons de l'autodestruction des sociétés européennes. Comme Polanyi, elle considère que l'effondrement des années 1914-1945 peut se voir comme la conséquence des contradictions du capitalisme européen débridé et non régulé des années 1815-1914. Elle insiste particulièrement sur le fait que les États-nations européens ont été en quelque sorte dépassés par l'internationalisation du capitalisme industriel et financier mondialisé qu'ils avaient contribué à créer. Compte tenu de l'échelle planétaire et de l'ampleur transnationale inédite atteinte par les échanges commerciaux, l'accumulation du capital et la croissance industrielle, ils n'étaient plus en mesure de contrôler et de réguler les forces économiques en jeu et leurs conséquences sociales. Pour Arendt, la principale faiblesse des sociaux-démocrates européens de l'entre-deux-guerres est précisément qu'ils n'avaient toujours pas pleinement intégré ce besoin de dépassement de l'État-nation. D'une certaine façon, ils étaient bien les seuls. Les idéologies coloniales, sur lesquelles s'étaient appuyés depuis longtemps les empires coloniaux britanniques et français, tous deux en phase d'expansion accélérée entre 1880 et 1914, étaient à leur manière des dépassements de l'État-nation. Ces formes politiques proposaient une organisation des échanges et du capitalisme mondial au sein de communautés impériales de grande taille, structurées de façon fortement hiérarchique entre le centre et les colonies, et suivant une logique civilisatrice. Elles étaient toutefois sur le point d'être minées par les forces centrifuges et indépendantistes. Pour Arendt, le succès des projets politiques bolcheviques et nazis vient du fait qu'ils s'appuyaient tous deux sur de nouvelles formes étatiques post-nationales adaptées aux dimensions de l'économie mondiale. Un État soviétique s'appuyant sur un vaste territoire eurasiatique, mêlant le panslavisme et le messianisme communiste au niveau mondial. Et un État nazi s'appuyant sur un Reich de dimension européenne, fondé sur le pan-germanisme, et un projet d'organisation hiérarchique et racialisée du monde, désormais dirigé par les plus capables. Chaque projet promet à son peuple une société sans classe, dont tous les ennemis auraient été exterminés, à la différence près que le Volksgemeinschaft nazi permet à chaque Allemand de s'imaginer propriétaire d'usines à l'échelle mondiale, alors que le bolchevisme propose à chacun de devenir ouvrier, membre du prolétariat universel. À l'inverse, l'échec des sociaux-démocrates serait dû à leur incapacité à penser des formes fédérales nouvelles et au fait de s'être contentés d'un internationalisme de façade, alors que la réalité de leurs projets politiques et de l'État social et fiscal qu'ils entreprenaient de bâtir demeurait cantonnée dans les limites étroites de l'État-nation. Cette analyse, formulée notamment à l'encontre des mouvements socialistes, sociaux-démocrates et travaillistes français, allemands et britanniques de la fin du XIXe siècle et de la première moitié du XXe siècle, est d'autant plus intéressante qu'elle reste extrêmement pertinente pour comprendre les limitations des sociétés sociales-démocrates de l'après-guerre et de ces mêmes mouvements politiques à la fin du XXe siècle et au début du XXIe. Elle renvoie généralement au débat de la période 1945-1960, non seulement sur la construction d'une communauté économique européenne, mais également sur la transformation de l'Empire colonial français en une fédération démocratique, à un moment où nombre de dirigeants ouest-africains percevaient très clairement les difficultés de minuscules États-nations, comme le Sénégal ou la Côte d'Ivoire, pour développer un modèle social viable au sein du capitalisme mondial. Elle renvoie aussi et surtout aux insuffisances criantes de l'Union européenne actuelle, dont les maigres tentatives pour prendre en main la régulation du capitalisme et la mise en place de nouvelles normes de justice sociale, fiscale et environnementale n'ont à ce jour guère été couronnées de succès, et qui est régulièrement accusée de faire le jeu des acteurs économiques les plus prospères et les plus puissants. Les positions d'Arendt laissaient toutefois grande ouverte la question de la forme et du contenu du fédéralisme en question, ce qui permet d'ailleurs de mieux comprendre certaines des difficultés ultérieures. S'agit-il d'un fédéralisme visant à réduire les inégalités et à dépasser le capitalisme, ou au contraire d'un fédéralisme visant à empêcher son renversement et à constitutionnaliser le libéralisme économique? Par la suite, Arendt exprimera une foi de plus en plus forte pour le modèle états-unien, seul projet politique véritablement fondé sur le respect des droits individuels, alors que les processus politiques européens seraient englués dans une recherche rousseauiste et robespierriste de la volonté générale et de la justice sociale menant presque inévitablement au totalitarisme. Cette vision s'exprime particulièrement nettement dans son « Essai sur la Révolution », publié en 1963, en pleine guerre froide, et dans lequel elle entend dénoncer la vraie nature de la Révolution française et réhabiliter la Révolution américaine, injustement négligée, selon elle, par les intellectuels européens férus d'égalité et insuffisamment soucieux de liberté. Ce profond scepticisme sur l'Europe doit sans doute beaucoup à sa trajectoire personnelle et au contexte de l'époque. Et il est bien difficile de savoir comment Arendt, disparu en 1975, jugerait les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne de 2019. Il reste que cette argumentation très négative sur la possibilité même d'une justice sociale démocratique est au final assez proche de la position prise en 1944 par un autre exilé européen célèbre, Friedrich Hayek, dans son essai « La route vers la servitude »« The Road to Serfdom », où il explique en substance que tout projet politique à base de justice sociale mène tout droit au collectivisme et au totalitarisme. Il écrit alors depuis Londres, et il vise particulièrement les travaillistes britanniques qui s'apprêtent à prendre le pouvoir lors des élections de 1945. Rétrospectivement, le jugement paraît sévère et presque incongru, surtout pour quelqu'un qui s'apprêtait à soutenir quelques décennies plus tard la dictature militaire du maréchal Pinochet. L'Union fédérale entre socialisme démocratique et ordolibéralisme. Ces débats et ces ambiguïtés sur le fédéralisme et le dépassement de l'État-nation sont riches d'enseignements pour notre enquête. Ils permettent aussi de mieux comprendre pourquoi les discussions sur le fédéralisme, très nombreuses dans les années 1930 et 1940, eurent tant de mal à déboucher. En 1938, le mouvement Federal Union, lancé au Royaume-Uni, et qui compta rapidement des centaines de sections dans tout le pays, voit ainsi dans la forme fédérale la solution pour éviter la guerre. Les projets évoquent à la fois une union fédérale démocratique entre la métropole et les colonies britanniques, une union anglo-états-unienne et une union entre démocratie européenne face au nazisme. En 1939, le journaliste et essayiste new-yorkais Clarence Strait propose dans son projet Union Now une fédération transatlantique regroupant 15 pays, gouvernée par une chambre des députés élue proportionnellement aux populations et un Sénat comprenant 40 membres, dont 8 sénateurs pour les États-Unis, 4 pour le Royaume-Uni, 4 pour la France et 2 pour chacun des 12 autres pays. Il ira jusqu'à proposer en 1945 un projet de fédération mondiale comprenant une convention élue au suffrage universel, chacune des 9 grandes régions de la planète étant découpée en 50 circonscriptions, avec une surreprésentation des puissances occidentales, qui élirait ensuite un président et un conseil de 40 membres, en charge notamment du désarmement nucléaire et d'une certaine dose de redistribution des ressources naturelles. La Charte des Nations Unies, adoptée en 1945 avec une Assemblée générale composée d'un représentant par pays et un Conseil de sécurité comprenant 5 membres permanents, dotés d'un droit de veto et 10 membres élus par l'Assemblée générale, est directement issue de ce type de débat, particulièrement nombreux dans les années 1930 et 1940. Dans un contexte où l'on sent bien que l'ancien monde colonial est sur le point de sombrer, où la Grande Dépression de 1929 vient de démontrer l'interdépendance des économies et le besoin de nouvelles régulations collectives, et aussi où les nouvelles liaisons aériennes viennent de réduire les distances de façon spectaculaire, de nombreuses voix se sentent autorisées à imaginer des formes inédites d'organisation politique pour le monde de l'avenir. De ce point de vue, le mouvement britannique Federal Union et les débats qu'il a suscités sont particulièrement révélateurs. Initié par de jeunes militants qui voyaient aussi dans le fédéralisme une façon d'accélérer les indépendances et de leur fournir un cadre politique pacifique, il fut vite rejoint par des figures universitaires comme Beveridge, auteur du célèbre rapport de 1942 sur les assurances sociales, qui contribua à la mise en place du National Health Service par les travaillistes en 1948, et Robbins, de conviction beaucoup plus libérale. Il inspira la proposition de création d'une union fédérale franco-britannique formulée par Churchill en juin 1940, refusée par le gouvernement français, alors réfugié à Bordeaux, et qui préfère donner les pleins pouvoirs à Pétain. Outre que plusieurs membres du gouvernement préféraient ouvertement devenir une province nazie plutôt qu'un dominion britannique, force est de reconnaître que le contenu institutionnel de l'union fédérale proposée, au-delà de l'alliance militaire indéfectible et la mise en commun complète des forces terrestres, navales et coloniales encore libres, restait relativement flou. Il est intéressant de noter qu'un groupe d'universitaires britanniques et français s'était réuni à Paris en avril 1940 pour étudier le fonctionnement d'une possible union fédérale, d'abord au niveau franco-britannique, puis élargie au niveau européen, sans parvenir à un accord. La vision la plus imprégnée de libéralisme économique était défendue par Hayek, qui avait quitté Vienne et enseigné depuis 1931 à la London School of Economics, où Robbins l'avait fait recruter, et prônait une pure union commerciale fondée sur les principes de la concurrence, de la liberté des échanges et de la stabilité monétaire. Robbins était sur une ligne assez proche, tout en envisageant la possibilité d'un budget fédéral et en particulier d'un impôt fédéral sur les successions au cas où la liberté des échanges et la libre circulation des personnes ne suffiraient pas pour diffuser la prospérité et réduire les inégalités. D'autres membres du groupe avaient des visions beaucoup plus proches du socialisme démocratique, à commencer par Beveridge, adepte des assurances sociales, ainsi que la sociologue Barbara Wharton, qui proposait un impôt fédéral sur le revenu et les successions avec un taux supérieur de 60%, doublé d'un système de revenus plafond et de succession maximale. Les participants à la réunion se séparèrent sur un constat de désaccord sur le contenu économique et social de l'union fédérale envisagée, tout en espérant qu'une union militaire se mette en place au plus vite. Wharton précisa ses propositions en 1941 dans son ouvrage « Socialism and Federation », puis en 1945 dans « Freedom under Planning ». C'est d'ailleurs en partie en réponse à Wharton que Hayek publia en 1944 « The Road to Serfdom », tout en précisant que ce livre risquait de lui coûter bien des amis dans son nouveau pays d'adoption, mais qu'il lui était nécessaire d'alerter l'opinion sur les risques que représentaient, selon lui, les travaillistes britanniques et les collectivistes de toutes sortes. Il mettait également en garde, dans ce même livre, contre les sociaux-démocrates suédois, nouvelle coqueluche des progressistes, en rappelant que le volontarisme économique des nazis avait également été salué en son temps, avant que l'on réalise qu'il était porteur de menaces pour les libertés, jugement qui, rétrospectivement, paraît là encore particulièrement hasardeux. Tous ces débats autour du mouvement Federal Union eurent un écho dans l'Europe entière. Altiero Spinelli, militant communiste alors emprisonné dans les geôles de Mussolini, s'en inspira par exemple pour rédiger en 1941 son Manifeste pour une Europe libre et unie, ou Manifeste de Ventotene, du nom de l'île où il était emprisonné. Ces débats et ces ambiguïtés sur le fédéralisme sont essentiels, car ils sont toujours les nôtres. La chute des sociétés de propriétaires pose de façon centrale la question de l'échelon politique pertinent pour réguler et dépasser le capitalisme et les rapports de propriété. À partir du moment où l'on fait le choix que les relations économiques et commerciales et les rapports de propriété s'organisent au niveau transnational, il paraît évident qu'un dépassement durable des sociétés de propriétaires et du capitalisme exige une forme élaborée de dépassement de l'État-nation. Toute la question est celle de la forme et du contenu précis à donner à un tel projet. Nous allons voir dans les prochains chapitres les limites considérables des réponses apportées par les mouvements politiques de l'après-guerre, en particulier au niveau européen et plus généralement dans le cadre des traités économiques et commerciaux mis en place pour organiser la mondialisation, aussi bien au cours de la guerre froide, 1950-1990, que pendant la période post-communiste, 1990-2020.